Les matins avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La réforme des retraites ne s'en va pas avec Jean-Paul Delevoye. Elle demeure, a confirmé hier soir la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. L'exécutif qui ne veut pas se montrer fragilisé par la démission du haut commissaire aux retraites hier après des révélations sur ses activités et mandats non déclarés. Tandis que le gouvernement cherche un nouveau capitaine pour mener la réforme, une nouvelle journée de manifestation nationale est prévue aujourd'hui. En parallèle, les grèves se poursuivent dans les transports, notamment un TGV sur 4 et un Transilien sur 5 circulent en moyenne. À Paris, 8 lignes de métro sont toujours fermées. Comment les cheminots envisagent-ils la suite du conflit social après quasiment 2 semaines de mobilisation? Hier, le taux de grévistes à la SNCF était de 11,2% selon la direction. 61% des conducteurs et 41% des contrôleurs ont cessé le travail. Reportage dans une assemblée générale Gare de Lyon à Paris de Simon de Faucompré.
La grève est reconduite jusqu'à demain 11h. Bravo !
Rassemblés au bout de la voie 23, 170 grévistes sont regroupés autour d'un feu de palette. La fatigue commence à se faire sentir pour Abou, 37 ans, conducteur de RER.
Les journées sont longues. On se lève à 3h du matin, prêt à accueillir les premiers trains qui vont sortir. Et ensuite, on vient aux AG. Derrière, on peut faire des manifestations, etc.
Sans parler du salaire qui fond de jour en jour.
Je dois être à 500 euros à peu près, de perdu. S'il faut aller à 500 euros de plus, il n'y a pas de problème. Je préfère perdre 3 mois de salaire maintenant que travailler 3 ans de plus et gagner moins après.
Le gouvernement et la direction de la SNCF ont demandé une pause de la grève à Noël. Accusés de prendre les vacanciers en otage, les syndicats n'ont pas l'air intimidés. Béranger Cernon, secrétaire général de la CGT à la gare de Lyon.
Ils se sont aperçus que quand les cheminots faisaient grève, eh ben il n'y avait pas de train. Et puis donc il n'y aurait personne pour pouvoir les emmener en vacances à Noël ou dans la famille. C'est pas nous quand même qui avons décidé de présenter un projet de loi en plein mois de décembre, alors qu'on savait qu'il y avait les périodes de fête. C'est pas comme ça que ça marche.
Côté gréviste, on est aussi prêt à sacrifier ses fêtes de fin d'année. Laetitia est agent d'escale.
Cette année Noël, je suis censée le passer dans le sud avec mes parents. Non, je les ai prévenus que je serai pas là. On verra les années suivantes. Oui, je suis prête à passer Noël ici, sur les piquets de grève, en assemblée générale, en manif, pourquoi pas.
Pour appuyer la grève, des collectes sont mises en place. Celle de la gare de Lyon n'a atteint que 3000 euros. Pas de quoi vraiment aider les quelques 400 grévistes, mais c'est un soutien symbolique important pour les syndicats à l'heure de retourner dans la rue.
La CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC solidaire et la FSU marcheront pour réclamer le retrait pur et simple du projet. Ils prévoient l'instauration d'un régime universel. La CFDT, la CFTC et l'UNSA défileront derrière leur propre banderole. Ces organisations veulent améliorer son contenu. Le sommet sur le Sahel qui devait initialement se tenir hier à Pau est reporté au 13 janvier, a annoncé dans la soirée l'Élysée. Le but, réévaluer les objectifs de l'engagement militaire français dans la zone. Les présidents des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie seront présents. Le sommet avait été annulé après une attaque djihadiste meurtrière au Niger. 49 journalistes ont été tués dans le monde cette année. C'est presque moitié moins qu'en 2018. Un chiffre historiquement bas, communiqué par Reporters sans frontières ce matin, qui ajoute que le nombre de journalistes emprisonnés, en revanche, ne cesse d'augmenter. En cette fin d'année, ils étaient 389 à être privés de liberté. C'est 12% de plus par rapport à l'an dernier, Valérie Crova.
Trois pays comptent à eux seuls près de la moitié des journalistes emprisonnés. La Chine est de loin la plus grande prison du monde pour les professionnels de l'information qui veulent exercer leur métier librement. L'Égypte et l'Arabie Saoudite se disputent quant à elles la première place de geôlier au Proche-Orient. Que ce soit au Caire ou à Riyad, la plupart des journalistes sont maintenus en détention sans même avoir été jugés. Autre fait marquant, les journalistes tués dans des pays dits en paix sont désormais plus nombreux qu'en zone de conflit. Avec 10 morts au cours de l'année écoulée, le Mexique se situe au même rang que la Syrie. Mais les chiffres cachent parfois d'autres réalités. Au Yémen ou en Afghanistan, l'année 2019 a été moins meurtrière en dépit des combats ou des attentats. Les dangers sont tels que plusieurs journalistes yéménites ont préféré changer de métier. Leurs confrères afghans ont quant à eux appris à moins s'exposer pour ne pas être pris pour cible.
Boeing suspend sa production de 737 MAX à partir de janvier. Le constructeur aéronautique l'a annoncé hier, faute d'avoir obtenu l'aval des autorités pour le faire revoler. En quelques mois, deux accidents impliquant ce type d'appareil ont fait 346 morts. On ne sait pas pour combien de temps la production est arrêtée. À ce stade, il n'est pas prévu de supprimer des emplois, assure l'avionneur américain. La Charente-Maritime est à son tour placée en vigilance orange pour des risques d'inondation, tout comme la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. L'alerte est levée dans le Gers. Le temps sera pluvieux sur la plupart des régions de France. Il ne devrait pas faire plus de 13 degrés à Lille et Bordeaux, 14 à Paris ce midi, 9 à Brest, 16 à Lyon et 20 degrés à Ajaccio, Guillaume.
Merci Margot Delpierre. On se retrouve dans quelques instants sur France Culture pour tenter de comprendre comment se fabrique l'opinion dans un conflit social. Et on sera en compagnie de Jérôme Sainte-Marie, sondeur et fondateur de la société d'études et de conseil PollingVox.
En raison d'appels à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Vous écoutez France Culture.
I've been so many places, I've done. I saw a lot of signs, I'm doing some bad. I've had a lot. I hold it bad. I treated you kindly, can't see.
tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
Eh oui, vous écoutez France Culture, nous sommes là, il est 7h40.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Ce mardi 17 décembre marque une nouvelle journée de contestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le mouvement apparaît ragaillardi par le ralliement de la CFDT à l'appel à manifester. En face, le gouvernement doit encaisser l'onde de choc de la démission de Jean-Paul Delevoye, ancien haut-commissaire aux retraites, suite aux révélations sur ses déclarations d'intérêt incomplètes. C'est donc affaibli et face à un front syndical ressoudé que le gouvernement joue la carte de l'opinion publique contre les syndicats alors que se profile l'échéance des vacances de Noël. Comment se construit l'opinion? De quoi se compose-t-elle? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la société d'études et de conseils Pollingvox, enseignant à l'université Paris-Dauphine, et vous avez publié Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du CERF. Comment observez-vous aujourd'hui le mouvement de l'opinion par rapport à ce mouvement social?
Mobilisation sociale provoque également une mobilisation de l'opinion, mais ce qui est intéressant là-dedans, comme très souvent d'ailleurs, dans ce genre de moment, les mouvements sociaux sont un peu des brèches dans la vie normale de la démocratie, et les gens se classent dans ces cas-là pour ou contre la réforme, pour ou contre le mouvement, d'ailleurs certains sont à la fois contre la réforme et contre le mouvement, d'ailleurs c'est possible, ils se classent là-dessus en mobilisant pas seulement leur appartenance politique, leur préférence partisane, mais aussi ce qu'ils sont dans la vie hors de la politique, c'est-à-dire dans la vie sociale, ce qu'ils sont d'un point de vue là où ils habitent, le métier qu'ils font, etc. Ça me frappe beaucoup dans ce mouvement-ci à quel point les fidélités politiques, en tout cas là, par exemple la proximité par rapport aux partis de gauche ou aux partis de droite, n'est pas un élément très important. Ce qui est véritablement décisif, c'est, et par rapport au sujet même de la réforme, c'est quelles sont les ressources financières, quelles sont les perspectives d'avenir des gens. Et c'est ça qui, à mon avis, structure le plus le positionnement. Ce qui fait d'ailleurs, et ça me frappe depuis quelques semaines, que on parle beaucoup de bataille de l'opinion, mais si c'est une bataille, c'est plutôt une guerre de position actuellement, parce que les lignes ne bougent pas tellement. Vous avez une majorité faible de Français qui ont de la sympathie ou du soutien pour le mouvement, mais vous avez une minorité très significative et assez stable qui est d'à peu près un tiers des Français qui, eux, sont très opposés au mouvement et soutiennent la réforme et le gouvernement. Mais c'est pas les mêmes, précisément.
Et alors, comment se décomposent précisément ces deux blocs, si vous considérez qu'il y a deux blocs, Jérôme Sainte-Marie?
Oui, je considère que la vie politique actuellement est structurée par deux blocs, c'est-à-dire le bloc populaire et le bloc élitaire, c'est dont je parle dans le livre, tout en précisant immédiatement qu'entre ces deux blocs, il y a encore beaucoup de monde. Je pense que c'est eux qui structurent désormais notre paysage politique. Autrefois, c'était la gauche et la droite, mais il reste encore 40-45% des Français, notamment parmi les classes moyennes, qui, eux, ne se positionnent pas là. Pour vous répondre pour ce mouvement, vous avez déjà une population importante, décisive désormais électoralement, qui soutient la réforme, massivement, les deux tiers. Je voyais ça ce matin dans un sondage Elabe. Oui, les retraités. Ce sont les retraités. Les retraités, 17 millions de personnes, sont toujours très favorables aux réformes des retraites et, à ce que l'âge de départ à la retraite soit le plus tardif possible, dans la mesure où ils considèrent que c'est une garantie pour maintenir le versement de leur pension. Ça, c'est très important, les retraités. Les retraités, c'est une ressource importante. Vous avez également, mais c'est les cadres supérieurs qui sont plutôt favorables. Et enfin, après les réflexes politiques, vous avez les sympathisants à la fois d'Emmanuel Macron, mais également les anciens électeurs de François Fillon.
Pourquoi les retraités seraient-ils favorables à une réforme qui, par définition, ne va pas les concerner, Jérôme Sainte-Marie?
Parce que les retraités, c'est une population qui désormais est dépendante du versement de leur pension par l'État. Le système de répartition a cette conséquence assez étonnante que les retraités deviennent en quelque sorte les actionnaires de l'économie. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont très prudents politiquement. Mmh. Ils sont très adversaires de toute aventure, notamment de toute aventure monétaire. Ils sont favorables au maintien dans l'euro. Ils sont la population qui vote le moins pour le Rassemblement National ou pour la France Insoumise, en réalité. Et c'est un peu les garants du système. C'est une population énorme, c'est un inscrit sur trois. Et eux sont plutôt favorables à des réformes libérales qui permettront, à leurs yeux, de garantir le fonctionnement de l'économie et donc le versement de leurs pensions. Et ça, quelle que soit leur origine politique ou leur origine sociale.
Et ce sont des gens qui votent beaucoup.
C'est des gens qui votent, c'est un tiers des inscrits, mais c'est plus au niveau des votants. Ça, effectivement, c'est peut-être un des terrains de bataille principaux dans les combats politiques à venir.
Mais alors, c'est étonnant parce que la manière dont Emmanuel Macron, sa politique, a traité les retraités, eh bien, cette manière-là a évolué. Et il y a eu également une première période où ceux-ci ont pu se sentir maltraités par la politique fiscale du gouvernement.
Oui, on peut pas considérer qu'Emmanuel Macron, comme d'ailleurs les gouvernements précédents, soit totalement prisonnier de leur clientèle politique. Ils la servent, hein, mine de rien, mais pas tant que cela. Pour les retraités, c'est quand même l'essentiel pour eux, c'est de ne pas être ceux qui sont sanctuarisés par rapport à la réforme des retraites. Mais effectivement, il y a eu certaines choses, notamment en matière fiscale, qui les avantageaient pas forcément. On peut constater ça aussi pour un autre soutien important du macronisme, c'est-à-dire le monde des cadres supérieurs. Si on y réfléchit, depuis 2 ans et demi, on peut pas dire que les intérêts des cadres supérieurs, qui sont quand même des salariés comme les autres, hein, eh bien, aient été particulièrement défendus.
En quoi ?
En matière fiscale, en fait, on se rend compte que autant les plus riches, mais les 1%, disons, ont été clairement favorisés par la politique d'Emmanuel Macron en matière fiscale. Ça, tout le monde, tous les observatoires économiques et fiscaux en témoignent. Autant les retraités, les cadres supérieurs sont largement mis à contribution. Donc eux, donc les classes moyennes supérieures, par exemple, il y a eu aussi d'autres choses. Les conditions, beaucoup de cadres supérieurs dans leur carrière sont un jour ou l'autre licenciés. Le plafonnement de ce qui est prévu du côté des prud'hommes, ce plafonnement-là les concerne directement et n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et c'est même sur l'indemnisation du chômage.
Alors donc ça veut dire que dans ce cas-là, clientélisme est moins important que vous ne le dites.
Alors mais l'adhésion là-dessus, je pense qu'Emmanuel Macron et le macronisme en général ont les mains assez libres dans la mesure où les cadres supérieurs actuellement n'ont pas de solution alternative et où surtout le discours, l'idéologie du macronisme, même son langage managérial, les conforte totalement dans leur vision du monde et surtout dans leur être social. Il y a une identification invraisemblable des cadres supérieurs à Emmanuel Macron qui voit en lui l'incarnation de la réussite à laquelle ils aspirent. Donc, si vous voulez, il y a une telle proximité idéologique qu'à mon avis, ça n'oblige pas spécialement Emmanuel Macron à leur donner des avantages très concrets. Inversement, l'autre composante, c'est-à-dire l'élite réelle, les classes dominantes, etc., les intérêts financiers, eux sont largement servis par Emmanuel Macron, y compris, il faut le souligner sans cesse, dans cette réforme des retraites. Le plafonnement, le fait qu'après 10 000 euros, les gens, par exemple, soyons très concrets, qu'après 10 000 euros, on n'est plus concerné par le système public de retraite, fait que c'est pas forcément une très bonne nouvelle, en réalité, pour ceux qui touchent plus de 10 000 euros mais c'est une très bonne nouvelle pour, effectivement, les sociétés financières qui vont pouvoir leur proposer des produits.
Si on compare l'adhésion ou, d'ailleurs, les réticences ou la protestation contre cette réforme des retraites avec l'autre séquence qui est celle des Gilets jaunes, qu'observe-t-on ? Parce que là aussi, pour les Gilets jaunes, il y a eu une bataille de l'opinion, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est pas exactement les mêmes publics qui se mobilisent en réalité. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement extraordinairement intéressant durant les premiers mois, jusqu'en février à peu près. Après être de février, vous voyez d'ailleurs une chute. Sur les sites dédiés des Gilets jaunes, il y a une chute de fréquentation assez impressionnante et la composition des cortèges se modifie. C'est une mobilisation très intéressante parce que, pour l'avoir observé sur le terrain, avoir beaucoup regardé les études à ce sujet, eh bien, c'était une mobilisation avant tout des travailleurs pauvres du secteur privé. Des gens qui sont à peu près le contraire d'ailleurs des personnes concernées par les régimes spéciaux, ces travailleurs pauvres du système privé, qu'ils soient indépendants, artisans, commerçants, précaires, en intérim par exemple, chômeurs ou bien salariés, ces travailleurs pauvres du secteur privé donc ne sont pour ainsi dire pas syndiqués et au fond très peu encadrés politiquement, même si beaucoup d'entre eux votaient pour le Rassemblement National, en réalité énormément s'abstiennent et puis leur vote se disperse, ils n'ont pas de représentants politiques à toutes. C'est tout le contraire avec la mobilisation actuelle où là vous avez des populations très syndiquées et très encadrés plutôt par la gauche politiquement, qui vont se mobiliser. C'est une des raisons, à mon avis, pour laquelle la coagulation a du mal à se faire. Même si tout le monde est plus ou moins concerné par la réforme des retraites, je suis pas sûr que quand ces sympathisants gilets jaunes voient le drapeau de la CGT au-dessus de rail, ils s'identifient complètement.
Il y avait un paradoxe, vous le rappelez, dans votre livre Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre Bloc, publié aux éditions du Cerf. Il y avait un paradoxe dans le mouvement des gilets jaunes. Et c'est qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes où il y avait de la violence et cette violence n'a pas dissuadé une partie de l'opinion d'apporter son soutien au mouvement des gilets jaunes. Et il y avait là une interrogation, une forme de paradoxe. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, effectivement, c'est très frappant. Hein, c'est très frappant. Juste après l'acte que j'appelle désormais, je crois, l'acte 3, c'est-à-dire le 1er décembre et le saccage de la boutique de l'Arc de Triomphe, eh bien, qui est très médiatisé et des images qui tournent en boucle. Dans les médias, vous avez pourtant toujours 72% des Français qui soutiennent le mouvement des gilets jaunes. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs le retrait de la disposition fiscale par le gouvernement et puis cette scène étonnante du président de la République le 10 décembre devant 23 millions de Français qui en 10 minutes cèdent des milliards comme ça ne s'était jamais vu depuis mai 68. C'est cette tolérance à la violence en quelque sorte de rue montre à quel point à mes yeux l'opinion française s'est radicalisée depuis 3 ans et à quel point vous avez un affrontement qui n'est pas seulement depuis 3 ans, l'affrontement de gens mécontents par telle ou telle disposition. D'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui sont très opposés à Emmanuel Macron, et quand vous discutez avec eux, quand vous faites une enquête auprès d'eux, vous vous rendez compte que c'est pas tellement telle ou telle mesure précise qui lui reproche, c'est au fond ce qu'il incarne. Ce qu'il incarne, c'est bien une classe sociale dominante, et je pense que les gens ne se trompent pas l'analysant ainsi, et chacun est renvoyé par...
Plus que les autres présidents de la République
considérablement, justement, parce que la fin du clivage gauche-droite a fait que vous avez désormais ce que j'appelle, moi, dans ce livre, dans le bloc élitaire, c'est une triple réunification. Une réunification d'éléments de la gauche et de la droite pro-européenne, libérale, une réunification idéologique, le libéralisme culturel, le libéralisme économique, qui était opposé à travers le clivage gauche-droite et qui maintenant marche main dans la main. Et puis, surtout, c'est un livre qui s'inspire quand même largement des théories de Karl Marx, hein, je ne m'en cache pas, surtout, vous avez une réunification sociale. Tout simplement, pour prendre des termes bien clairs, la réunification de la bourgeoisie. On a le droit de parler ainsi, puisque le président de la République avait mis lui-même ses troupes en garde contre le fait d'incarner le parti bourgeois. Et donc, vous avez la France d'en bas, l'impression que la France d'en haut gouverne désormais pour elle-même et par elle-même.
Alors qu'avec Nicolas Sarkozy ou François Hollande...
C'était tout à fait différent, puisque autrefois la gauche et la droite étaient avant tout des partis de classe moyenne qui avaient bien entendu chacun, puisque c'était des partis de gouvernement, des fractions de catégories dominantes à leur tête, mais également qui devaient composer, ne serait-ce que pour l'emporter au second tour, avec des morceaux très importants des classes populaires.
Ça n'empêchait pas Nicolas Sarkozy d'être taxé de président des riches.
Oh bien sûr, ben ça oui. Bon après c'est le jeu de la gauche ou de la droite, ça n'a pas empêché non plus François Hollande de faire la loi El Khomri, mais enfin donc effectivement et de faire la réforme du code du travail. Mais il me semble que les relations. D'ailleurs, si vous regardez, je regardais ça tout à l'heure, hier soir plutôt, il y avait un ouvrage du Cevipof qui montrait qu'au second tour de 2012, qui est le dernier, la dernière présidentielle, vous avez le second tour qui est organisé clairement par le clivage gauche-droite. Au second tour, vous n'avez pas tellement de différence par rapport à la moyenne du vote des cadres ou du vote des ouvriers. Alors que quand vous basculez dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire en 2017, là, à ce moment-là, vous avez un vote totalement différent des ouvriers et des employés et des cadres. Et vous avez, entre Macron et Marine Le Pen, pour dire les choses clairement, vous avez deux univers sociaux qui s'affrontent. Et tout simplement, encore une fois, la gauche et la droite étaient devenus des univers culturels, sociologiquement composites. Là, aujourd'hui, c'est la sociologie qui dicte sa loi.
Oui, mais alors, justement, si on poursuit l'opinion et son évolution, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu au 1er 8 décembre des scènes violentes. Ces scènes violentes n'ont pas conduit à une condamnation globale du mouvement des Gilets jaunes dans l'opinion. Il y a toujours eu un soutien dans l'opinion. Aujourd'hui, on est dans un cadre beaucoup plus classique, un conflit social qui peut rappeler celui de 1995 et l'opinion est beaucoup plus réservé. Comment l'expliquez-vous, Jérôme Sainte-Marie ?
Oh ben, il y a des raisons. Moi, je prends toujours l'opinion des gens totalement au sérieux. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'il y a une évolution démographique qui n'est pas favorable au maintien en l'état du système des retraites. Donc ça, il y a eu tellement d'études qui ont été faites, tellement de sondages qui ont été faits sur cette question-là, qu'évidemment, les Français sont très inquiets. Que par ailleurs, 76% d'entre eux sont opposés au maintien des régimes spéciaux. Donc ça, ça pousse plutôt à l'acceptation de la réforme. Et d'ailleurs, le principe d'une réforme...
Mais alors, qu'est-ce qui dérange accepté. Dans ce cas-là, dans
Mais
cette réforme?
Vous avez, de l'autre côté, si la communication gouvernementale qui fait tout pour faire croire aux gens qu'il ne s'agit que des 3% de salariés qui bénéficient de régimes spéciaux, et cette promesse d'universalité qui est d'ailleurs démentie par le fait que la force de police, les polices fortes opportunément, eh bien, la police est exemptée de cette réforme, eh bien, tout, on est quand même dans une période un peu caricaturale, hein, parmi les aspects, dans la gouvernance. Et donc, vous avez, à ce moment-là, vous, pour revenir là-dessus, vous avez des gens qui considèrent que l'imprécision de la réforme est une source d'inquiétude. Vous avez quand même cette perspective de devoir travailler plus longtemps. Et cette idée qu'on trouve souvent que, en se mobilisant, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir obtenir des aménagements. Donc, l'opposition n'est pas aussi radicale que ça. Vous avez un dernier élément qui tient au fait que vous avez une opposition très forte. Et encore une fois, qui renvoie à un imaginaire de lutte des classes, en réalité, qui caractérise cette période. Et donc, l'antimacronisme existe, comme l'antisarkozisme, vous l'avez rappelé, existait.
Toujours si on essaye de reprendre l'histoire de l'opinion face aux conflits sociaux, mai 68, vous le rappelez dans votre livre, Jérôme Sainte-Marie, a été une période où la condamnation du mouvement social, des grèves, a été très forte.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'a oublié, parce qu'on a complètement mythifié mai 68. La mémoire de mai 68 est un sujet passionnant. J'ai oublié son nom, malheureusement. Il y a mai 68 et ses vies successives. C'est une historienne, je crois, américaine, qui a fait un bouquin absolument passionnant. Je crois que c'est chez Agone, qui rappelle à quel point tous les 10 ans à peu près, le souvenir de mai 68 évolue. En 68, les quelques études possibles. C'était difficile à faire. Hein, c'était la grève générale et à l'époque, les études se faisaient en face à face. Mais en tout cas, y compris à partir de juin, les instituts de sondage qui existaient à l'époque réussissent à en faire de manière assez complète, montrent qu'une bonne partie des Français qui venaient pourtant de bénéficier largement des effets de la grève générale et qui pour beaucoup y avaient participé trouvaient que ça allait trop loin, qu'il y avait un risque de guerre civile et que par ailleurs c'était une majorité relative de mémoire qui considérait qui était
oui c'était deux blocs très
mais de toute façon c'est étonnant qu'on l'ait oublié puisque après mai 68 il y a juin 68 il y a donc les élections législatives et un triomphe historique du parti de l'ordre, c'est-à-dire effectivement à l'époque c'était le parti gaulliste qui c'est une chambre bleu horizon en quelque sorte.
On pourrait vous rétorquer que les élections européennes après le mouvement des Gilets jaunes n'ont pas vu une victoire des partis qui ont soutenu les Gilets jaunes, Jérôme Sainte-Marie.
Alors c'est un phénomène extraordinaire et qui montre que, comment dirais-je, enfin c'est un phénomène extraordinaire, vous avez pendant des mois on nous dit si jamais la République En Marche n'est pas en tête, c'est un échec terrible, la République En Marche n'est pas en tête et pourtant on nous explique qu'Emmanuel Macron a remporté l'élection alors qu'il a la liste Loiseau fait moins que Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Alors même qu'il y a une dimension, je suis désolé, je suis sondeur et je renvoie toujours un peu à la sociologie, vous avez une dimension très importante, c'est que, de fait, les 50% d'électeurs qui se mobilisent aux élections européennes ne ressemblent pas aux 80% d'électeurs qui se mobilisent généralement pour la présidentielle. La dernière fois, c'était 78%. Il manque 30 points, si j'ose dire, et ces 30 points qui manquent, c'est plutôt les catégories populaires. Donc c'est un corps électoral très favorable au parti de l'ordre, au parti de la réforme, que les élections européennes.
Jérôme Sainte-Marie, si je vous suis, dans l'opinion aujourd'hui, la réforme est plutôt populaire, avez-vous dit
Non. L'idée de réforme est populaire, mais cette réforme-ci est impopulaire.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Je prends un sondage ELAP, 54% des Français, contre 30% à peu près, sont opposés à cette réforme précise. Après, est-ce qu'ils sont opposés à cette réforme en raison de son contenu ou en raison de ceux qui la présentent? Ça, c'est autre chose. On pourrait en discuter. Mais en tout cas, c'est pas, voilà. Après, c'est pas quelque chose qui forcément bloque une réforme. Contrairement à ce que disait Michel Rocard qui avait dit autrefois que il y avait, avec la réforme des retraites, avec les retraites, il y avait de quoi faire tomber 10 gouvernements. Aucun gouvernement n'est jamais tombé sur la réforme des retraites. La dernière fois qu'il y a eu un recul, c'était en 1995. Entre-temps, il y a eu 2 réformes majeures, en 2003 et 2010, qui étaient des réformes qui étaient impopulaires, mais qui ont abouti et sans que le gouvernement ait dû concéder quoi que ce soit.
Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre bloc, c'est votre livre publié aux éditions du Cerf. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par Léla de Commarmont, qui est journaliste pour Les Échos et qui suit notamment l'actualité sociale. On verra comment l'opinion et les syndicats, qui eux aussi ont une opinion, tentent aujourd'hui de modifier leur position par rapport à ce conflit sur la réforme des retraites. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Et à 8h, voici un point sur l'actualité par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une troisième journée de mobilisation nationale qui débute contre la réforme des retraites. Cette fois, tous les syndicats seront représentés dans les cortèges du jour, les syndicats réformistes ayant rejoint le mouvement. Pour autant, la CFDT ne défilera pas aux côtés de la CGT ou de Force ouvrière aujourd'hui, car leurs demandes sont bien différentes. La CGT et FO en tête demandent la suppression de la réforme des retraites. Quand Laurent Berger à la CFDT souhaite, lui, la réécrire. Dans les colonnes de La Croix ce matin, il propose d'ailleurs un compromis au gouvernement, une main tendue évidente à l'aube de cette journée de mobilisation. Le secrétaire général de la CFDT demande un an pour trouver un moyen d'équilibrer le budget des retraites. Il évoque par exemple l'augmentation des cotisations sociales ou le recours momentané aux réserves de différents régimes. Tout cela sans imposer un âge pivot à 64 ans. Le Premier ministre Édouard Philippe a lui proposé de recevoir les partenaires sociaux demain à Matignon. Mais d'ici là donc, les rassemblements pourraient être nombreux un peu partout en France, les grévistes également, notamment chez les enseignants et les cheminots. Dans l'éducation nationale, le ministère prévoit 25% d'enseignants en grève, la moitié selon les syndicats. À la SNCF, la direction recommande aux usagers d'Île-de-France de ne pas se rendre en gare aujourd'hui, les trains seront rares, trafic des RER compliqué, un Transilien sur 5 seulement circulera, un TGV sur 4. À la RATP, 8 lignes de métro seront totalement fermées, perturbations également dans les transports à Marseille et à Nice. Et si des discussions pourraient s'ouvrir dans les jours qui viennent, la réforme se fera même sans Jean-Paul Delevoye. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, s'est montrée claire hier soir, quelques heures après la démission du haut-commissaire chargé des retraites. Jean-Paul Delevoye était largement fragilisé ces derniers jours par des révélations sur des mandats non déclarés. Le quotidien Le Monde insiste d'ailleurs ce matin, selon ses informations, le secrétariat général du gouvernement était au courant du cumul des rémunérations opérées par le haut-commissaire. L'actualité sociale, elle est aussi et encore à l'hôpital ce mardi. Le personnel hospitalier se mobilise pour réclamer davantage de moyens. 4 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende ont été requis contre l'oncle de Bachar el-Assad pour des biens mal acquis en France. Rifat al-Assad est accusé de s'être frauduleusement bâti dans le pays une fortune immobilière estimée à 90 millions d'euros. Tous ces biens français seront confisqués. Nous avons aussi appris hier soir qu'un sommet avec les représentants du Sahel sera bel et bien organisé en France, à Pau. Ce sera le 13 janvier prochain. Emmanuel Macron souhaite y clarifier le cadre de l'intervention française contre les djihadistes dans cette zone. Et sur les terrains de guerre, les journalistes se sont fait un petit peu moins tué cette année, selon Reporters sans frontières. Dans son bilan annuel, l'ONG évoque 49 journalistes tués dans le monde en 2019. Ce chiffre est historiquement bas. Il traduit essentiellement la baisse du nombre de morts sur les terrains de conflits armés au Yémen, en Syrie et en Afghanistan. Il y a tout de même eu 49 journalistes tués cette année. Nous finissons ce point d'information avec de jolis espoirs. Deux films francophones figurent parmi la présélection pour l'Oscar du meilleur film étranger. Il s'agit du long métrage de Ladjli, Les Misérables, ainsi qu'Atlantique de la franco-sénégalaise Mati Diop. Les nominations seront connues le 13 janvier prochain. Et après un mois de novembre qui a battu des records de chaleur sur notre planète, voici la météo du jour en France métropolitaine. Sous un ciel gris et humide, les températures remontent encore. Comptez 9 degrés ce matin à Lille et à Nantes, 10 dans la matinée à Strasbourg, 11 degrés à Paris, 16 déjà à Lyon et à Marseille. Dans les matins de France Culture, nous reprendrons la discussion politique avec Guillaume Erner et son invité, Jérôme de Sainte-Marie, sondeur et enseignant. Avec aussi Stéphane Robert et le billet politique, ce sera à 8h16. D'ici là, un peu de musique.
En raison d'appels à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Engloutis mes péchés véniels, mes blasphèmes en apnée.
Brasse.
saupoudrée de courage vénin. Elle m'a arraché un sourire, elle m'a dit poli, polissons ces gravillons. Oh,
oh, dans la vie, oh, dans la poésie, oh, dans la parodie.
J'fais la noce avec Yasmina. Je divorce avec la grande ours aux équinoxes. Il arrive que je penche.
Oh, ta vie, oh, ta poésie, oh, ta presbytie. Sorties, le ciel de réglisse, au pilori mes éclipses, à la trappe, rodéo, corrida, civière, spada. A découvert le ventre à l'air, ancré dans la paix du bonheur, lancé de frisbee
dans les jardins de Libreville, lancé,
hop,
attrape,
loupé.
J'fais la noce avec Yasmina. Je divorce avec la grande ours aux équinoxes. Il arrive que je penche.
J'fais la noce,
j'fais la noce avec Monica. J'fais la noce.
En raison d'appels à la grève, émanant de plusieurs organisations syndicales portant sur le projet de réforme des retraites, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
On dit que pour détruire un homme, donner ce qu'il veut. Toi, c'est tous les jours que tu me donnes l'amour du pain et des jeux. Unis dans la cité du vice par un prêtre en costume d'Elvis. J'avais des as de pique plein les manches, toi du sang sur ta robe blanche. Le Vegas à Reno, Love and Casino, go, go where you wanna go. Don't tell me it's all over. Don't tell me it's all over. Et d'une maison bleue sur la colline, on voit le soleil qui s'incline, telle une main chaude caressant le front au ventre rond. Et dans ce pick-up en plein désert, lance castique en mon revolver. je paierai bien de ma personne pour régler ma dette à ce jeu.
Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
8h15 sur France Culture, la suite du programme. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez votre séquence TTC, la transition d'Hervé Gardette, qui est consacrée au déluge. Après le déluge, que se passe-t-il? Vous le saurez dans 30 minutes. Star Wars sera au cœur de la théorie culturelle de Mathilde Serrel et Philippe Catherine sera le thème de la conclusion d'Aurélien Bélanger. On retrouvera dans quelques instants Jérôme Sainte-Marie, sondeur. Il publie bloc contre bloc et il décrypte pour nous la manière dont se fabrique l'opinion dans un conflit social. Et il sera rejoint par Léla de Comarmont, qui est journaliste sociale pour le quotidien Les Échos, qui évoquera la stratégie, les stratégies des syndicats. Et puis un billet politique avec vous, Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous allez parler, vous aussi, de la réforme des retraites.
Oui, nous verrons qu'Emmanuel Macron a un peu bougé sur la question de l'âge pivot et sur la question de l'âge de départ en retraite.
Dans quelques instants.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le prix Marcel Duchamp. Découvrez l'exposition collective d'Éric Baudelaire, Katinka Bock, Marguerite Humeau, Ida Tursik et Wilfried Mill, les quatre artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp 2019. Depuis 19 ans, ce prix emblématique rassemble les artistes les plus novateurs de la scène contemporaine française et met en lumière la diversité des pratiques coexistant aujourd'hui en France. Le prix Marcel Duchamp, jusqu'au 6 janvier 2020 au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
8h17. Le billet politique, Stéphane Robert, l'évolution d'Emmanuel Macron sur l'âge de départ en retraite.
L'un des points de blocage et peut-être l'une des clés de résolution du conflit qui se déroule actuellement sur la réforme des retraites est sans aucun doute la question de l'âge pivot fixé la semaine dernière à 64 ans par Édouard Philippe. C'est cet âge pivot qui a mis en colère Laurent Berger et qui a incité la CFDT et les autres syndicats qualifiés de réformateurs à rejoindre pour la journée de manifestation aujourd'hui les contestataires de la CGT de Sud ou encore de Force Ouvrière. L'âge pivot, c'est quoi? C'est tout simplement l'âge auquel on vous accordera une retraite à taux plein, à 64 ans donc, selon le projet du gouvernement, ce qui signifie que si vous devez partir avant, à 62 ou 63 ans, vous pouvez vous accepter une décote, c'est-à-dire qu'on vous applique un malus et vous percevez une pension amputée de quelques pourcents. Il s'agit donc d'une incitation à travailler plus longtemps, ce qui permet au gouvernement de dire qu'il ne repousse pas l'âge légal de départ en retraite, mais dans les faits, ça produira à peu de choses près le même résultat, puisque ça conduit à considérer que si vous partez à 62 ans, vous prenez une retraite anticipée, et donc on diminue votre pension. Ce n'est pas ce qui était prévu au départ en 2017, quand Emmanuel Macron annonce qu'il se livrera à une réforme systémique et universelle des retraites en instaurant un régime par points. Le problème des retraites n'est plus un problème financier, disait à l'époque le projet du candidat Macron, et l'enjeu n'est pas de repousser l'âge ou d'augmenter la durée de cotisation. Et le président de la République était encore à peu près sur la même idée le 25 avril 2019, quand au cours d'une conférence de presse, il commence à esquisser les contours de sa réforme.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans.
À l'époque, il explique aussi qu'il faudra malgré tout songer à travailler plus longtemps étant donné que l'espérance de vie continue d'augmenter. Et il évoque déjà un possible système de décote pour inciter à repousser l'âge de départ. Mais le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye est lui plutôt sur une idée de surcote pour ceux qui acceptent de partir plus tard. À ce moment-là, on est encore dans le flou, ça ne génère pas vraiment de protestation, rien ne presse. On commence tout juste à sortir de la crise des gilets jaunes. Il sera toujours temps d'ajuster et de préciser les choses. Et puis petit à petit, les choses se précise. Jean-Paul Delevoye rend son rapport au mois de juillet. Il y est question de l'âge pivot, ça commence à poser problème. Dans le courant de l'automne, l'inquiétude s'empare des syndicats et d'une partie de la population. Et la semaine dernière, Édouard Philippe sort du bois. Il dévoile que le projet de réforme contient bel et bien un âge pivot à 64 ans avec un système de décote pour ceux qui partent avant. En l'espace de 2 ans et demi, le problème des retraites est redevenu un problème financier.
Bon, mais alors Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé?
Eh bien, à l'époque, en 2017, le comité de suivi des retraites qui se basait sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites estimait qu'il n'y avait pas de problème financier, que l'équilibre du système avait été garanti pour un certain nombre d'années par les réformes successives précédentes. Or, le Conseil d'orientation des retraites a aujourd'hui révisé son pronostic. Il a publié le 21 novembre dernier un rapport qui prévoit un déficit à partir de 2025 compris entre 8 et 17 milliards d'euros. Et c'est sur quoi se basent les partisans d'un allongement de la durée de cotisation dont fait partie le Premier ministre pour dire qu'il faut combler ce déficit. Mais il y a une autre raison, plus politique, qui tient à la nature de l'électorat d'Emmanuel Macron et au fait que cet électorat a évolué. De nombreuses enquêtes montrent que ceux qui soutiennent cette réforme des retraites sont pour une part les macronistes de la première heure, fidèles à Emmanuel Macron depuis 2017, mais aussi une bonne part de ceux qui avaient voté François Fillon il y a 2 ans et demi. Et pour cette part de l'électorat issu de la droite, le chef de l'État apparaît comme le garant d'une certaine orthodoxie financière, garant d'un État économe et responsable. Et si Macron veut conserver ce socle d'environ un tiers des Français qu'il soutient dans la perspective de la présidentielle de 2022, il ne peut pas s'aliéner cet électorat. On voit au passage que cette question des retraites réactive en quelque sorte un clivage droite-gauche qu'on dit affaibli. Le résultat pour Emmanuel Macron est qu'il y a un risque à lâcher du lest, voire à abandonner cette mesure d'âge qu'est l'âge pivot. C'est pourtant ce que réclament la CFDT et Laurent Berger, qui a déclaré que c'est une ligne rouge avec des gros yeux tout noirs. Et c'est la raison pour laquelle les discussions à partir de demain s'annoncent difficiles. Autrement dit, on n'est potentiellement pas encore sorti de ce conflit.
Merci Stéphane Robert. On va faire réagir nos invités à ce que vous venez de dire.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h22, nous sommes en compagnie de Jérôme Sainte-Marie, sondeur, fondateur de la société d'études et de conseils Pollingvox. Vous avez publié bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du CERF et nous accueillons Léla de Commarmont. Bonjour.
Bonjour.
Léla de Commarmont, vous êtes journaliste sociale pour le quotidien Les Échos. Vous avez l'habitude de suivre l'actualité syndicale sur la question des retraites. Quel a été le discours des syndicats? Stéphane Robert vient de nous expliquer que l'opinion d'Emmanuel Macron a évolué sur ce sujet et les syndicats.
Les syndicats ont toujours été contre un allongement de la durée du travail. On a eu le dernier grand conflit sur les retraites porte d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est sur le report de 60 à 62 ans de l'âge légal. Donc sur le principe, on a une opposition qui est de l'ensemble des organisations. Et en touchant à l'âge effectif de départ en retraite, évidemment, c'est non seulement un symbole, mais un élément qui a une conséquence concrète pour la vie des gens. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'ils se retrouvent face à un front syndical. Enfin, un front syndical, je pense qu'on en reparlera. Deux fronts syndicaux, peut-être.
Alors, précisément, ces deux fronts syndicaux, Léla de Commarmont, et lorsqu'il était question au départ de cette réforme des retraites, il y avait beaucoup de commentaires sur le thème. La stratégie du gouvernement, c'est d'avoir deux fronts syndicaux avec d'un côté la CFDT et peut-être l'UNSA et une vision un peu réformiste. Et puis de l'autre, la CGT. Pourquoi avoir froissé la CFDT?
Est-ce que véritablement l'objectif était de, dans un modèle social-démocrate, de construire un compromis avec la CFDT? C'est un petit peu, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque la réalité, c'est que cette ligne rouge sur l'âge de départ en retraite, la CFDT l'a toujours dit. La CFDT, c'est vrai, a un Graal. Depuis 10 ans, elle a travaillé la réforme. Elle y croit à ce système par points, à la différence de la CGT. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas prête à ternir l'image de cette réforme qu'elle pense être un véritable élément de progrès social par une concrétisation immédiate qui touchera quasiment tous les salariés, puisqu'y compris les salariés nés en 1960 seraient concernés. Et donc, elle n'est pas prête à tout lâcher pour cette réforme systémique, d'autant que, si on regarde bien ce qui a été annoncé jusqu'à présent, on a en gros la coquille, mais sur les éléments très forts pour la CFDT que sont la pénibilité, le minimum de pension, rien n'a été avancé. Comme si le gouvernement voulait échanger l'âge pivot contre ces mesures, ce qui pour la CFDT est inacceptable.
Alors d'après vous, c'était ça en fait l'idée, c'était de faire du troc au moment des négociations avec la CFDT, Léla de Commarmont?
On aurait pu le penser, mais en même temps, on est assez désarçonné par ce qui se passe, parce que de fait, les échos qui nous reviennent de la part de l'exécutif sont qu'ils souhaitent maintenir ferme le cap sur ces fameux 64 ans, Il n'y a pas d'alternative, a dit un ministre en off. Ça rappelle Margaret Thatcher.
Ça rappelle un certain nombre de choses. Mais alors, s'il n'y a pas d'alternative, cela signifie que le gouvernement veut essayer de faire passer cette réforme en s'aliénant tous les syndicats, ou pratiquement tous les syndicats, Léla de Commarmont ?
Est-ce que c'est un élément fort pour lui ? Sur l'assurance chômage, par exemple, on a vu qu'il n'a pas hésité à s'aliéner tous les syndicats, et puis même sur le principe d'ailleurs le patronat, dans la mesure où il avait imposé des objectifs à une négociation entre partenaires sociaux tels que évidemment il n'y a pas eu d'accord et qu'ils ont pris des mesures, d'ailleurs qui ne sont pas toutes en application, et on risque de voir des effets assez problématiques sur les demandeurs d'emploi.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je suis moyennement surpris par cette attitude très très ferme de l'exécutif, dans la mesure où ça m'a apparu encore plus nettement en écrivant ce livre et en relisant les discours, notamment de campagne d'Emmanuel Macron, à quel point c'est le projet macroniste qui s'assume comme minoritaire en permanence, et qui dit même c'est pas mal d'être minoritaire, parce que comme ça c'est même une promesse que fait Emmanuel Macron lors de son meeting fondamental du 12 juillet 2016 à la Mutualité. Ce qui, il est encore ministre, mais il est en train de lancer sa démarche pour la campagne présidentielle, et il revient plusieurs fois sur l'idée avec moi il n'y aura pas de petits arrangements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire avec moi il n'y aura pas de compromis sociaux. Cette fois-ci on est rassemblés, nous, le bloc élitaire, on est rassemblés...
Oui, parce que c'est votre théorie,
oh, non,
Jérôme
c'est ma théorie, mais c'est...
Non, mais il faut que j'expose ce que vous pensez, quand même, je suis là pour exposer votre pensée. Donc vous considérez qu'en fait, il y a encore une validité à la lutte des classes, et que cette lutte des classes, un bloc élitaire contre un bloc populaire, explique la situation politique dans laquelle nous sommes.
Oui, enfin, je considère plus simplement qu'il existe des classes sociales, et qu'effectivement, les classes dominantes se sont rassemblées autour d'Emmanuel Macron. Vous savez, ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit ce qu'il fait. De ce point de vue-là, c'est un digne héritier de Michel Rocard, il fait ce qu'il dit à peu près, et en tout cas, il dit tout à fait ce qu'il fait. C'est incroyable de transparence, avant même son élection. Et d'ailleurs, entre les deux tours, souvenez-vous, il n'envoie pas de message pour dire aux 76% d'électeurs qui n'ont pas voté pour lui, il n'envoie aucun message. Il le répète entre les deux tours. Je ne changerai rien à mon programme. Et donc, cette radicalité du macronisme peut être justifiée, c'est pas à moi de le décider, eh bien, se révèle aussi dans cette période de crise sociale.
Léla de Commarmont.
Effectivement, mais en même temps, il y a un vrai point d'interrogation sur la méthode, compte tenu de l'objectif, puisqu'il y a une mise en scène du dialogue social. Alors moi, j'appelle ça le concertaton, comme le téléthon. C'est-à-dire qu'on affiche des centaines d'heures de concertation, un nombre de réunions infinies. Cette méthode-là, en fait, elle commence avec la réforme du Code du
Pourquoi
travail.
Parce que pour vous, c'est du vent?
C'est-à-dire que quand on concerte, on négocie pas forcément. Mais le problème, c'est que quelle est la preuve de l'écoute? Quelle est la preuve qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène? Comment justifier que donner des éléments de pénibilité dans une réforme, ça puisse être uniquement dans une négociation pour faire plaisir à la CFDT quand on a en charge l'ensemble du pays? Donc, Le modèle, est-ce qu'il est abouti totalement? Je ne sais pas, dans la mesure où, si on compare aux manifestations de 2010, au conflit social de 2010, ce qu'on constate, c'est qu'en 2010, Fillon, il fait la vérité des prix. Hein. Sarkozy et Fillon, ils disent, c'est 62 ans, point barre. Je sais que les syndicats ne sont pas d'accord, mais moi, je décide parce que c'est bien pour le pays. Or là, on n'est pas dans ce scénario-là. Donc je me demande si l'absence de perfection du modèle n'est pas un problème.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, il y a aussi un élément politique. Le macronisme, qui est un projet au départ minoritaire, se renforce souvent en période de climat social. La base de l'exécutif se renforce. J'en veux pour preuve, justement, vous y avez fait allusion, je crois, les mouvements sociaux de la première année du quinquennat, notamment la réforme du Code du travail qui a lieu à l'automne 2017. Eh bien, elle produit quoi? Dans les sondages sur l'exécutif, elle produit la montée de la popularité d'Emmanuel Macron, qui redevient même en décembre 2017 populaire. Il fallait rester pendant 2 ou 3 mois parce qu'il a eu le renfort de notamment des électeurs de François Fillon du premier tour, qui se pas forcément parce que François Fillon n'était pas au second, et donc qui sont très satisfaits de voir qu'il tient tête et qu'il triomphe d'ailleurs à la fois de la CGT et puis à l'époque de la France insoumise. Et donc, ces victoires en race campagne lui valent quasiment jusqu'à l'été 2018 une cote de popularité assez forte. Et il faut attendre la rentrée 2018 pour avoir baissé. Et aujourd'hui, je finis juste là-dessus, j'insiste sur le fait que dans les sondages de popularité, eh bien, Emmanuel Macron, qui demeure très, très impopulaire, mais enfin, maintenant, on a l'habitude de tous les chefs de l'État, eh bien, sa position ne baisse pas. Et même selon certains instituts, il regagne un ou deux points. Donc, encore une fois, il y a des forces sociales puissantes derrière ce projet macronien.
Alors, il n'y a pas que le gouvernement qui a une stratégie vis-à-vis de l'opinion. Il y a aussi les syndicats. Léla de Commarmont, si vous pouviez nous dire comment les différents syndicats réagissent et tentent de construire un soutien dans l'opinion. Et tout d'abord, le premier syndicat, celui, je veux dire, qui est entré le premier dans cette bataille de la manière la plus évidente, c'est la CGT. Quelle est la stratégie de Philippe Martinez, lui aussi, joue gros, car s'il n'obtient pas le retrait de cette réforme, eh bien, il va y avoir des comparaisons qui vont se faire, par exemple, avec 1995.
Alors, d'abord, effectivement, l'opinion compte énormément pour les syndicats qui ont le sentiment d'exprimer l'opinion. Alors, ça déborde un petit peu, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça déborde un petit peu le champ des seuls salariés. Ça va un peu plus loin compte tenu de l'évolution du marché du travail. La CGT, dans l'affaire, elle a beaucoup à perdre, sans doute dans ses bastions. Elle a déjà beaucoup perdu, elle n'est plus la première organisation syndicale. Elle a derrière elle, Philippe Martinez a derrière lui des conflits qui ont été des échecs sur la loi El Khomri et sur les ordonnances. Mais en même temps, c'est assez intéressant. Sur la posture, ça ne change pas. C'est l'opposition frontale, le retrait. Ce qui change par rapport à Bernard Thibault, qui était dans l'opposition aussi, évidemment, mais qui était plus à se plonger dans le cœur, dans la mécanique des projets, ce que ne fait pas Philippe Martinez. Cela dit, cette fois-ci, il a conscience et il impose à ses troupes, à la partie de ses troupes qui est récalcitrante, l'enjeu de l'unité syndicale. Et ça, c'est un grand retour qui est extrêmement important parce que Philippe Martinez s'est construit dans l'opposition à la CFDT. Il a du coup beaucoup donné, beaucoup lâché aux ultras du syndicat CGT. Et aujourd'hui, que ce soit en interne, ce qui n'apparaît pas mais qui est essentiel dans une organisation où il multiplie les réunions avec tout le monde, où il prend des décisions collectivement, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui permet de limiter ces ultras au poids réel qu'ils ont dans l'organisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majoritaires. Et puis, en externe, il a un enjeu majeur qui est qu'aujourd'hui, il n'apparaît pas comme celui qui râle tout le temps, puisqu'on est sur un schéma d'unité, même si cette unité est assez particulière.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est un peu bizarre ce que je veux dire de la part d'un sondeur, mais je ne suis pas persuadé que la question de l'opinion soit si décisive que ça en ces périodes de conflit social. J'en veux pour preuve plusieurs choses. Tout d'abord, en 2010, dernière grande mobilisation, dernière grande réforme sur les retraites, l'opinion est tout à fait favorable au mouvement. Les mobilisations dans la rue sont plus importantes que celles qu'on a constatées jusqu'à présent. En septembre 2010, il y a 2 millions de personnes au moins qui défilent, beaucoup plus qu'actuellement. Et pourtant, la réforme passe intégralement. Inversement, quand vous avez des mouvements qui réussissent, c'est par exemple le dernier qui a réussi, je crois, à faire reculer le gouvernement, c'était avant les Gilets jaunes, c'était la mobilisation sur le CPE en 2006. Et puis après, vous avez les Gilets jaunes. On a l'impression quand même que ce qui est le plus efficace, alors que ce que je vais dire doit être pris avec prudence, mais ce qui est le plus efficace pour faire reculer un gouvernement et un projet, c'est d'une part le blocage de l'économie, c'est-à-dire la grève. La bonne vieille grève, ça c'est quand même tout à fait
décisif. Je crois que c'est ce que vous avez aujourd'hui.
Décisif. Et en mai 68, vous l'avez rappelé, l'opinion n'était pas si importante, ne soutenait pas tellement le mouvement, sauf qu'il y avait 6 à 9 millions de grévistes, le pays était mobilisé. Et la seconde chose, en 68, en 2006, ou bien en 2008 avec les Gilets jaunes, c'est aussi la peur de la perte de contrôle, c'est-à-dire des menaces sur la paix civile. Et c'est bien cela qui a fait, avec les Gilets jaunes, des mobilisations qui ne sont pas si énormes sur le terrain, le fait que, tout d'un coup, l'exécutif lâche des milliards d'euros.
Oui, mais Léla de Commarmont, justement, aujourd'hui, on a affaire à une grève des transports, une grève qui touche durement Paris et la région parisienne, qui a également beaucoup de conséquences en région. est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité à la fois pour les syndicats qui vont devoir tenir cette position, puisque la CGT et Sudrail, il faut pas oublier qu'il y a une concurrence entre ces deux syndicats. La CGT et Sudrail ont expliqué qu'ils ne lèveraient pas les grèves pendant la période de Noël s'il n'y avait pas de véritable avancée. Est-ce qu'il est possible pour ces syndicats de tenir? Et, à contrario, est-ce qu'il est possible pour le gouvernement de faire face à un blocage, notamment du rail, pendant la période des fêtes?
Alors d'abord, sur l'opinion, je ne parlais pas du résultat tangible du conflit. Je parle de l'enjeu d'image pour ces syndicats qui ont perçu aujourd'hui, même s'ils regardent ça un peu comme une poule face à un couteau, la nécessité des adhérents, la nécessité d'une vie syndicale dans les entreprises d'implantation. Ça déborde largement la CFDT qui avait commencé à ouvrir le sujet. Donc, on est bien d'accord sur le résultat concret et immédiat d'un conflit et le poids de l'opinion dans ce résultat. En fait, quand vous parlez de grève des transports, vous soulevez un sujet qui est très particulier parce qu'on a deux sujets en un. On a des régimes spéciaux qui sont attaqués et qui sont remis en cause. Et on a un sujet plus général qui est l'enjeu du système de retraite pour l'ensemble des Français. En 95, le sujet, il est à la fois l'enjeu de la SNCF, hein, avec d'ailleurs pas que la question de la retraite, et cet enjeu qui est plus national sur la sécurité sociale. On est dans cette situation aujourd'hui où effectivement, la réalité c'est que si le gouvernement est hyper raide sur les 64 ans, les discussions sont en train de se nouer dans les entreprises SNCF, RATP, pour essayer de sortir de la crise. Alors non pas en faisant survivre les régimes spéciaux, mais en obtenant des aménagements qui permettent d'adoucir la potion. Et le danger pour les syndicats, c'est effectivement paradoxalement que cette grève des transports qui bloque tout le monde s'arrête sans qu'il y ait de résultats tangibles pour l'ensemble des salariés. Mais ce qui est assez nouveau peut-être dans ces conflits...
C'est-à-dire, vous voulez dire que finalement, les régimes spéciaux survivent d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir de la réincarnation dans le domaine syndical. Donc qu'il y ait des avancées significatives pour les salariés de la SNCF et ceux de la RATP, et qu'il y en ait infiniment moins pour les autres salariés français.
Exactement. Alors survivre, je ne pense pas. Enfin, survivre un petit peu, c'est
possible. J'ai parlé de réincarnation.
Oui. Mais effectivement, c'est un sujet avec tout de même un élément à prendre en compte qui est assez intéressant. C'est le sentiment qui se développe un petit peu comme en 95 chez les grévistes de base de défendre non pas leur système, mais l'ensemble du salariat. Ils sont mal aimés, il y a le cheminot bashing, à la RATP on n'est pas beaucoup mieux. Et c'est, moi j'ai par exemple participé à une distribution de tracts de l'UNSA. Et effectivement, il y avait ce sentiment un petit peu qui galvanise les troupes, sachant que, et c'est très important, on a beaucoup appuyé sur l'enjeu des générations, c'est-à-dire ne pas laisser aux jeunes une dette, etc. Mais à la RATP, on est de père en fils et de mère en fille, chez les cheminées aussi. Alors, vous parlez de CGT. Moi, il y a quand même un nouveau venu dont on parle moins, mais qui est très important dans ces conflits corporatistes, qui est l'UNSA.
Et alors ?
Eh bien, l'UNSA, c'est un petit syndicat non représentatif au niveau national, mais il est devenu premier à la RATP, il est deuxième à la SNCF, et donc il pèse énormément aussi.
Quelle est la stratégie de l'UNSA dans ce conflit ?
Eh bien, l'enjeu, effectivement, c'est de savoir si on a absolument besoin de passer par la CGT, surtout pour régler un conflit dans ces régimes-là.
Mais si je vous suis bien, Léla de Commarmont, dans ces conditions, ce conflit qui se présente comme un conflit délégataire, les syndicats de la SNCF et de la RATP font grève pour tous les Français, pourrait se terminer comme un classique conflit catégoriel.
En tout cas, il pourrait y avoir reprise des transports, mais moi j'alerte sur... alors vous allez dire, rien ne se reproduit exactement, mais en 2010, il faut se souvenir qu'il y a eu une dizaine de mobilisations, que Laurent Berger a déjà annoncé que si ça ne bougeait pas, en janvier, il y aura une mobilisation. Jusqu'à présent, le privé n'a pas démarré. La question est, une fois qu'on va préciser la réforme, que chacun va faire ses comptes, et notamment les femmes, parce que moi je vous alerte, on dit que cette réforme est favorable aux femmes, les femmes actives... qui ont eu ou pas des enfants, quand elles vont faire les comptes, elles vont se rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait vrai.
Et donc moi... Pourtant, le gouvernement insiste beaucoup sur les 5% par enfant.
Oui.
Effectivement, supplémentaire pour la retraite.
Mais aujourd'hui, les femmes qui ont 3 enfants et qui ont travaillé ont 10% et le compagnon aussi quand elles partent en retraite. Enfin, l'équation n'est pas aussi simple qu'on veut le dire, et à trop regarder du côté des femmes qui s'arrêtent pour s'occuper de leurs enfants, on oublie que la majorité du salariat féminin aujourd'hui est un salariat comme les autres.
Jérôme, oui, c'est effectivement une énigme de la communication gouvernementale sur cette réforme. C'est qu'au fond, les Français étaient très pessimistes sur le système des retraites et étaient prêts à admettre le fait qu'il y ait des sacrifices, ils étaient également partagés. Le fait d'avoir communiqué sur le fait qu'il n'y aura aucun perdant se heurte à un scepticisme généralisé. Et comme les gens ont l'impression qu'on leur dit pas la vérité là-dessus, du coup, ils deviennent un peu complotistes. Ils cherchent l'explication. Pourquoi est-ce qu'on nous dit pas la vérité? Qu'est-ce que ça cache? C'est assez curieux comme choix de communication.
On a beaucoup parlé, justement, à la faveur de ce conflit, Jérôme Sainte-Marie, d'une perte de confiance dans les politiques. La démission de Jean-Paul Delevoye ne va peut-être pas complètement arranger les choses.
Oui, enfin, cette démission, c'est surtout le discours qu'on entend depuis quelques jours ou quelques heures encore plus, depuis qu'il a démissionné. C'est le fait que, on lui tresse des lauriers, on dit qu'il a choisi, etc. C'est absolument sidérant, parce que si les faits que l'on lui reproche sont avérés, c'est une violation d'article de la Constitution, quand même. Hein. C'est-à-dire, et c'est un tort qui est fait à l'État. Et donc, c'est vrai que là, ça peut se transformer, ou ça devrait se transformer en affaire d'État. Il y a, mais c'est un sujet un peu annexe par rapport au livre, il y a un vrai problème dans ce pays, dans la confiance en la justice, avec l'impression qu'il y a une sévérité extrême par rapport aux forces contestataires et, inversement, une assez grande mansuétude pour ceux qui sont actuellement du côté du pouvoir. C'est un sentiment qu'on n'est pas obligé de partager, mais qui est désormais très répandu.
Que peut-on attendre de cette journée, Léla de Commarmont? Est-elle importante? Dans quelle mesure pourrait-elle peser sur la suite des événements?
Elle est importante, évidemment, puisque il y a eu 2 journées d'action jusqu'à présent, une très forte et une autre beaucoup moins. Donc chacun va compter les troupes. Elle est importante parce que cette fois-ci, tous les syndicats sont dans la rue et que cette journée, ensuite, il va y avoir le Premier ministre qui va consulter encore une fois, puis réunir
mais
tout le monde,
ce qui est un élément fort. C'est-à-dire faire semblant de consulter, si on vous suit, puisque vous nous avez dit il y a une mise en scène de négociations, mais pas de réelles négociations.
On ne sait jamais, je dirais. Celui qui ose prévoir parfaitement la météo sociale et politique, c'est quand même toujours risqué. Je crois que certains éditorialistes, et pas sur cette antenne, ont eu quelques mésaventures récemment.
Cela arrive toujours, les mésaventures, mais au-delà de ça, Léla de Commarmont, si vous considérez qu'il y a des négociations à l'intérieur des entreprises SNCF-RATP, cela pourrait signifier que le gouvernement tente de faire passer cette réforme malgré l'opposition syndicale, c'est en tout cas la manière dont vous nous avez présenté les choses. La mobilisation pourrait-elle influer sur le gouvernement et faire en sorte qu'il change de stratégie? Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je pense que ce qui peut faire le plus peur au gouvernement, c'est pas tellement le volume des manifestations, mais quelque chose qui peut lui être lié, c'est que le mouvement se répande dans d'autres catégories. Les routiers, notamment les catégories du secteur privé. C'est toujours au moment où ça se répand dans les catégories du secteur privé que là, les gouvernements lâchent parce que la situation devient incontrôlable. Encore une fois, on a l'exemple de 2010, des manifestations très importantes, un soutien d'opinion et pourtant une réforme qui passe à peu près inchangée.
Léla de Commarmont.
D'abord, on a des injonctions contradictoires, puisqu'à la fois on souhaiterait que les transports reprennent et en même temps on dit que c'est la seule façon de faire pression et ils seraient corporatistes s'ils reprenaient. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, 2010, c'est avant 2012 quand même. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un paradoxe qui est que les conflits sociaux ne donnent pas forcément des résultats concrets pour les salariés immédiats. Ils ont très clairement des conséquences politiques qui ne sont pas mineures.
Jérôme Sainte-Marie, un mot de conclusion là-dessus.
Oui, absolument. Il faut voir que
les conséquences politiques d'un conflit,
les victoires d'un gouvernement face à un mouvement social peuvent être parfois des victoires à la Pyrrhus et se solder ensuite dans les urnes quelques années plus tard. En 95 a été suivi, 2012 c'était donc après 2010, mais après 95, 2 ans plus tard, il y avait 97, il y avait la dissolution et la victoire de l'arrivée de Jospin à Matignon, la victoire de la gauche. Un certain nombre d'électeurs ont fait payer également à la droite à l'époque sa semi-victoire ou sa semi-du mouvement de 95.
Merci Léla de Commarmont pour ce décryptage. On vous retrouve dans les colonnes des Échos. Merci Jérôme Sainte-Marie. Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est aux éditions du Cerf. Je vous présente le bloc des chroniqueurs. Je ne sais pas si c'est un bloc élitaire. Il se compose d'Aurélien Bélanger, d'Hervé Gardette et de Mathilde Serrel. Bonjour à tous les trois.
C'est un bloc solidaire en tout cas.
C'est bien d'être solidaire.
C'est notre leader.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants?
Après moi, le déluge.
Mathilde Serrel.
Star Wars change de régime.
Et enfin, Aurélien Bélanger.
Une nécro accidentelle.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Les Romains faisaient la différence entre l'otium et le négocium, entre le temps libre et son antithèse, le travail. Boulot, taf, gagne-pain, le travail prend de plus en plus de place dans nos vies et dans nos esprits. Combien de temps devrons-nous travailler demain? Comment entre-t-on sur ce marché hyper concurrentiel? Et à quel moment partir à la retraite? Autant de questions qui nous imposeront un dur labeur, alors ne tardons plus au travail.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
8h46, suite des matins sur France Culture, avec la transition d'Hervé Gardette. On ne peut malheureusement pas parler de surprise, Hervé. La COP25 qui s'est achevée dimanche à Madrid est un échec. Aucune avancée notable et tant pis pour les petits pays victimes du réchauffement climatique.
Les collapsologues se veulent rassurants. Lorsque notre civilisation se sera effondrée, disent-ils, une nouvelle société basée sur l'entraide pourra émerger. La nature humaine nous pousserait en effet à coopérer en cas de danger plutôt qu'à nous entretuer. D'un naturel optimiste, je ne demande pas mieux que d'adhérer à cette vision des choses, mais les contre-exemples sont trop nombreux dans l'actualité pour y croire tout à fait. Alors je ne parlerai pas ici du combat quotidien pour monter dans une des rares rames du métro parisien en temps de grève. Je vous conseille d'ailleurs, sujet, la lecture d'un article du Monde d'il y a quelques heures. Mais je vais vous parler de la COP25 qui s'est achevée dimanche à Madrid. Ce fut pour l'essentiel le rendez-vous des égoïsmes nationaux, lesquels, quand on les additionne, ne renforcent pas la solidarité entre les États. Au contraire, ils l'affaiblissent. Alors, ce rendez-vous annuel de la communauté internationale autour des questions climatiques n'était certes pas le plus décisif. Celui de l'an prochain en Écosse aura une autre importance puisqu'il s'agira, pour chacun des États signataires de l'accord de Paris de 2015, de réviser à la hausse ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En l'état, ceux fixés il y a 4 ans sont très insuffisants pour contenir la hausse moyenne de la température à 2 degrés. Ils le sont d'autant plus qu'ils ne sont le plus souvent pas respectés. Si Madrid a accueilli une COP qu'on peut qualifier d'intermédiaire, elle aurait dû, symboliquement au moins, accompagner la prise de conscience massive et mondiale de la société civile qui se manifeste bruyamment depuis un an. Or, que s'est-il passé en Espagne? Eh bien, les principaux pays responsables du réchauffement climatique ont délibérément refusé d'aider davantage ceux qui en sont les principales victimes. La COP25 avait deux grands dossiers à traiter. La régulation des marchés du carbone, dont je vous ai déjà parlé début décembre dans cette chronique, au début de la COP d'ailleurs, et la question des pertes et préjudices liés au changement climatique. Ces pertes et ces préjudices, ce sont les dégâts, souvent irrémédiables, puisque coûteux en vies humaines, provoqués par des épisodes climatiques de plus en plus violents, comme par exemple les ouragans, les tempêtes, l'érosion côtière. Les dégâts en question n'ont rien de théorique. Le dérèglement climatique est une réalité pour des pays qui souvent associent vulnérabilité écologique et vulnérabilité économique. En 2015, d'ailleurs, une vingtaine d'entre eux, parmi lesquels le Bangladesh, le Timor oriental, Madagascar ou encore le Vanuatu, 700 millions de personnes en tout, ont créé le V20, V pour vulnérable, pour essayer de faire entendre leur voix. Avec l'atténuation du changement et l'adaptation au changement, la question de la réparation des dommages est un des piliers de l'action climatique. Un mécanisme a d'ailleurs été créé par la communauté internationale pour traiter ce sujet de manière spécifique. Il s'agit du mécanisme de Varsovie. Il s'agit de documenter les pertes et préjudices subis par ces pays vulnérables, d'offrir un espace de coopération et de renforcer le soutien aux pays les plus affectés, autrement dit de les aider financièrement à surmonter une situation occasionnée par les pays les plus riches. Or, comme l'explique le réseau Action Climat sur son site, c'est justement sur ce dernier point que le bât blesse. Les pays développés, responsables des émissions historiques de gaz à effet de serre, n'ont pas voulu signer de chèque en blanc pour réparer les dommages que leur mode de production et de consommation cause. Et les pays du Sud n'ont pas d'autre moyen que leur force de persuasion pour convaincre ceux du Nord de les aider, puisqu'il n'existe pas de cadre juridique qui pourrait contraindre les seconds à indemniser les premiers. À Madrid, aucun engagement précis de compensation financière n'a été pris, ne serait-ce que parce que, comme le relève par exemple le journal Les Échos, aucune étude ne fait référence s'agissant des besoins réels de financement. Les pays développés ont refusé de créer une aide financière spécifique, inspirant cette réflexion aux représentants de l'archipel polynésien des Tuvalu. Réflexion à caractère peut-être prémonitoire. Il y a des millions de personnes qui souffrent des changements climatiques partout dans le monde. Le nier pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité.
Merci Hervé Gardette. Après votre transition, la théorie culturelle de Mathilde Serrel. Mathilde, puisqu'un nouvel épisode de Star Wars s'accompagne toujours de nouvelles théories, vous allez nous exposer la vôtre.
En apparence, l'événement planétaire que constitue la sortie du 9e épisode de la saga Star Wars se situe dans une galaxie lointaine, très lointaine, des mouvements sociaux qui agitent la France aujourd'hui. Mais puisqu'un nouveau Star Wars s'accompagne toujours d'une effervescence théorique, on pourrait ajouter aux multiples scénarios échafaudés par les fans que cet opus nous parle du temps présent. C'est ma théorie. Je n'irai pas jusqu'à dire que Star Wars nous parle de la réforme des retraites, mais force est de constater que la saga est entièrement traversée par cette question de l'héritage et de la transmission ou non d'un modèle. Ce 9e épisode a même une responsabilité particulière puisqu'il met fin non pas à une trilogie, mais à 9 opus, comme le rappelait son réalisateur J.J. Abrams, ou J.J., si je le dis avec l'accent anglais. Après 42 ans de vie sur les écrans, quoi qu'il advienne, et malgré son titre sibilant, l'ascension de Skywalker, demain l'épisode 9 est censé conclure l'histoire de la famille Skywalker. Il interroge donc le statut de la génération qui vient. Et cette question se pose autant d'un point de vue diégétique, c'est-à-dire dans l'histoire de Star Wars, qu'extra-diégétique, c'est-à-dire du point de vue du film. Qu'est-ce qui succédera à ce mythe tel que nous l'avons connu dans les 3 nouveaux longs métrages qui sont d'ores et déjà prévus par Disney en 2022, 2024 et 2026. Et du point de vue de l'histoire de Star Wars, comme de celui de la saga cinématographique, une problématique revient sans cesse, comment tuer le père ? Dans le Retour du Jedi, en 1983, Luke va brandir son sabre et trancher la main robotique de son père Dark Vador. Dans Les Derniers Jedi, en 2017, Kylo Ren, fils de la princesse Leia, sœur de Luke et donc petit-fils de Dark Vador, transperce son père Han Solo et le laisse tomber dans les entrailles de la base Starkill. Parallèlement, c'est à cette question qu'a dû se confronter le réalisateur J.J. Abrams par rapport au père de la saga, George Lucas, lorsqu'il a repris les rênes de cette troisième trilogie avec Le Réveil de la Force en 2015. Star Wars raconte donc autant les aventures intergalactiques des Jedi qu'elle se raconte elle-même en tant qu'épopée cinématographique. Et ce, en plaçant toujours au centre les enjeux d'une rupture douloureuse et ambivalente de la filiation. Partant de là, cet épisode crépusculaire qui sortira demain constitue en quelque sorte l'ultime rupture. Une nouvelle génération de personnages, une nouvelle génération de films, une nouvelle génération de spectateurs arrive, mais que feront-ils de ce modèle ? Il me semble que c'est au-delà de Star Wars la question qui nous traverse aussi aujourd'hui.
Merci Mathilde Serrel. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
J'ai longtemps possédé pour toute musique deux seuls CD, des CD gravés, l'un avec les deux albums concept de Gainsbourg, Melody Nelson et L'homme à tête de chou, qui avait pour caractéristique, outre le fait aussi pratique que satisfaisant, qu'il faisait une heure exactement, de tenir dans un boîtier en plastique translucide mou, au fond duquel une sorte de détente jaune en assurait l'éjection. C'était un très bel objet, cadeau de mon ami Philippe, dont le prénom l'avait aussi prédestiné à me graver un autre disque qui contenait, lui, deux albums de Philippe Catherine, 8e ciel, son chef-d'œuvre de 2002, et celui qu'il avait écrit quelques années plus tôt pour Anna Karina. Clin d'œil, évidemment, au fait que nous avions fraternisé à Rennes quelques années plus tôt en parlant. C'était alors comme cela que deux jeunes hommes fraternisaient, des films de Godard, deux CD, quatre albums. C'est peu dire que je les ai beaucoup écoutés. Je les connais encore par cœur, ces traces indélébiles et un peu vaines de la formation de mon goût musical, car comme j'allais progressivement arrêter d'écouter de la musique, ces albums, spécialement ceux de Catherine, seraient un peu comme la dernière chose que j'aurais écoutée avant de devenir sourd. Je les entends encore résonner au loin, ainsi de ces mots bouleversants chantés par l'actrice danoise d'une voix grave et qui sonnent encore aujourd'hui pour moi comme le plus bouleversant des adieux à l'enfance. Anne-Karine, petite fille viking, c'est ta vie que j'ai vécue et tu n'en as jamais rien su. Ou encore, ce qui reste, 15 ans après, l'une de mes métaphores préférées de toute la poésie française, la vie se démultiplie comme les bords d'une carte d'état-major. Mon opinion sur 8e ciel n'a pas changé. Plus qu'un album de chansons pop, j'avais la certitude qu'on tenait là l'un des sommets de la poésie française, un successeur possible au bateau ivre de Rimbaud, un condensé chanté du meilleur de la poésie surréaliste. Nous vivons prisonniers dans le ventre d'un chien, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, chantait Philippe Catherine. Alors bêtement, je lui en ai voulu de ne pas avoir poursuivi sur son élan de 2002 et d'être passé à côté d'une carrière classique de poète pour le bizarre métier d'amuseur, pour les pénibles potacheries des albums suivants avec des titres blagues comme Luxor ou La Banane. J'aurais dû mieux écouter la 9e piste de 8e ciel, Mort à la poésie. Catherine l'expliquait bien, je fais de ma vie un chef-d'œuvre qu'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. Le dandy, chez lui, était bien supérieur à l'artiste, du moins le croyais-je, jusqu'à récemment. Je me suis en effet mis à réévaluer le Philippe Catherine tardif. D'abord, qui voudrait être poète, exclusivement poète, après l'Abyssinie de Rimbaud, ou poète en musique, après les insupportables bruits de bouche de Brassens ou la morgue de Brel? Personne, évidemment, personne sinon Biolay ou Booba. Il faut, pour être poète aujourd'hui, le kitsch du premier degré, ce à quoi précisément Catherine aurait été sauvée par son dandysme, comme il apparaît sincère pourtant, ce petit Vendéen devenu un people. Son épopée parisienne en a fait l'un des rares héros artistiques de la classe moyenne, lequel d'entre nous oserait, comme il l'a fait en 2010, poser avec ses parents sur la pochette d'un album où la ferveur filiale le dispute hardiment à la malaisance. Le showbiz se contente en général d'acheter des maisons à ses parents, pas de revenir y tourner ses clips, sauf comme PNL quand l'appartement familial est sociologiquement iconique. C'est une scène étrange et cruel du film Peau de cochon qui m'a convaincu qu'on était là en présence d'un artiste de dimension warholienne. Je retiens moins de ce collage néo-dadaïste la célèbre collection de caca congelé de l'artiste ou l'affaire enfantine, infamante de l'hybridation homme-animal par l'imposition intraventriculaire de la fameuse peau de cochon que ce moment où Catherine reprend, mot pour mot, dans les rues du village pavillonnaire de son enfance, les propos d'un snobisme plus atterrant que mignon de sa jeune fille, fatalement parisienne. Jamais la France ne m'était apparue aussi scindée et aussi entière, aussi indivisible et fracturée que dans le corps du poète qui vantait les charmes de la vie parisienne, d'une voie de fausset sur un chemin de fer désaffecté de Chantonnay en Vendée. Et si la clé du personnage était là, comment peut-on chanter à Paris quand on a pour toute référence d'avoir Chantonnay enfant?
Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Vous savez, on va écouter un peu d'Anna Karina, Sous le soleil, exactement, c'est bien entendu, de Gainsbourg. Vous savez que l'artiste est un peu voyant, alors Aurélien Bélanger, vous aviez non pas prévu la disparition d'Anna Karina puisqu'elle nous a quittés ce week-end, mais vous aviez écrit cette chronique avant que l'on apprenne sa disparition.
Tout à fait, j'espère que cela ne l'a pas précipité dans le tombeau.
Ah, parce que vous pensez que vous pouvez avoir
au bout d'un moment, à force de faire des chroniques tous les jours, on finit par penser qu'on a des pouvoirs. Ouais. Mais petit commentaire astronomique, la définition d'un tropique, c'est l'endroit où le soleil est au zénith au moins une fois dans l'année. La zone intertropicale étant la zone où au moins une fois dans l'année se produit le phénomène observé dans la chanson.
Alors, il y avait de la musique, mais là, c'était un extrait musical. Parce que sinon, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a beaucoup de musique en ce moment sur France Culture en raison d'un mouvement social. Et demain, nous consacrerons sur France Culture une journée spéciale. Un an après le déclenchement du mouvement dit des Gilets jaunes, la France connaît en cet automne un important mouvement social. Si le projet de réforme des retraites est le pivot de la contestation, d'autres sujets s'agrègent au mécontentement s'agissant des services publics, en particulier santé, éducation, transport et puis radio. Comme vous l'entendez depuis quelques jours à Radio France, France Culture va donc consacrer une journée spéciale à la situation actuelle et va mettre en débat les enjeux des oppositions sociales et politiques en cours. Vous pourrez l'entendre demain sur France Culture. Merci à toute l'équipe des matins, Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouen Guizou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacoboviez, Nicolas Paumet et Valentin Bobidet. Il est 9h sur France Culture.